Bonjour à toutes et à tous, numéro 7 de Mémoire Véronaise sur CFM Rodez, des rendez-vous tous les 15 jours avec Vincent Beson, président du comité Rodez du souvenir français. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, 7e rendez-vous avec toi, et je me rappelle, il y a 15 jours, tu nous avais parlé d'une belle Italienne qui allait nous intéresser pour ce 7e numéro de Mémoire Véronaise.
Eh oui, la Joconde.
Ah voilà,
Mona Lisa.
Voilà, alors le Mona Lisa... Comme son nom l'indique et comme ce que j'ai pu apprendre à l'école, pour un, elle est italienne.
Oui, Florentine.
Merci de la précision. Et je ne vois pas le rapport du tout avec l'Aveyron, à moins que Léonard de Vinci, à un moment donné, en montant voir François Ier, soit passé par l'Aveyron.
Ouais, non, pour aller dans les châteaux de la Loire, non, il n'est pas du tout passé par là.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Joconde et surtout le lien avec nous, quoi, avec le département?
Ah, mais ça, c'est une histoire de guerre, comme d'habitude, dont je vais vous parler. Alors, avant de vous parler de ça, je vais quand même planter un peu le décor, et vous parler de Mona Lisa. Donc, c'est une Florentine, c'est Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Joconde, qui a été peinte donc, par Léonard de Vinci. La date, on ne sait pas trop, parce que les spécialistes se disputent un petit peu dans les dates. On estime entre 1503 et 1507. Voilà la date à laquelle ce tableau a
début
été peint, peut-être même en plusieurs fois.
Ouais.
On ne sait pas pourquoi, mais Léonard de Vinci y tenait énormément et la faisait suivre vraiment partout où il allait, notamment en France, quand le roi François Ier, après les campagnes d'Italie, a demandé à Léonard de Vinci de le rejoindre en France, dans les châteaux de la Loire, près du château d'Amboise. Il avait un petit château qui se visite toujours, qui s'appelle le Clos Lucé, où il a passé sa vie, la fin de sa vie, et où il est mort. À sa mort, François Ier, qui était vraiment très attaché à Léonard de Vinci, c'était un peu son père spirituel, a fait l'acquisition de ce tableau en 1525, et ce tableau donc est resté dans les collections royales, et à la Révolution française, ce tableau a été récupéré par la République et gardé au Louvre.
Gardé ou exposé ?
Exposé au Louvre. Il a toujours été exposé du temps des rois.
Ouais.
Louis XIV l'a exposé à Versailles, Louis XVI également, il a voyagé entre le Louvre, et déjà il était au Louvre au temps des rois, il est toujours resté donc dans ce beau musée du Louvre. Donc, pendant la guerre...
Laquelle ? Parce qu'il y en a eu un paquet.
Il y en a eu un paquet déjà, je viens de parler de la campagne d'Italie sous la Renaissance. Alors, pendant juste avant la Seconde Guerre mondiale, un monsieur, Jacques Jaujard, il est né en 1895 dans la Seine. Et
il savait nager.
Dans le département de la Seine. Voyons.
Oui.
Au bord, en bord de Seine, voilà, si tu préfères.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait un département qui s'appelait le département de la Seine.
Tout à fait. En 1933, il est nommé directeur des musées nationaux.
Il devait être content.
Il devait être content, oui. Surtout que c'est vraiment un très très beau titre.
Ouais.
Et ce monsieur, en fait, en 1939, juste avant que la guerre éclate, se fait du souci pour toutes les œuvres majeures qui se trouvent au musée du Louvre.
Ouais.
Et il décide de sélectionner les œuvres les plus importantes et de les éloigner de Paris.
Voilà,
Paris, capitale de la France.
Ah oui, c'est peut-être que la guerre allait peut-être mal tourner.
Voilà, tout à fait. Enfin... Mais pas mal tourner, mais déjà 14-18, les Allemands ont été très proches de Paris, ont failli la prendre. En 1870, on en a parlé avec le 122e régiment d'infanterie, il y a eu le siège de Paris. Là aussi, les Prussiens ont failli rentrer dans Paris.
Ouais.
Donc, ils pensent déjà à protéger tout ça. Et Jacques Jaujard a une expérience déjà dans le sauvetage d'œuvres. Puisque, alors on en a parlé la dernière fois de la guerre d'Espagne, avec le camp de Sept-Fonds. Pendant la guerre d'Espagne, en 1936, ils participent, ils seront assez nombreux, hauts responsables d'œuvres d'art, ils participent au sauvetage des œuvres du Prado à Madrid, le musée du Prado.
Comme le Louvre en Espagne.
Tout à fait. Le Louvre, le Louvre espagnol. En 1936, donc, il participe à sélectionner des œuvres majeures. Ces œuvres sont éloignées le plus possible du front. Alors, je ne sais plus, je ne veux pas me tromper. Si je ne me trompe pas, je crois que ça part vers la Catalogne. Et donc, on est en 36. En 1939, juste avant la fin de la guerre d'Espagne, ces œuvres passent la frontière, traversent la France avec des accords internationaux et arrivent à Genève pour y être protégées. une fois que la guerre d'Espagne sera terminée, le gouvernement officiel, le nouveau gouvernement espagnol, c'est-à-dire le gouvernement de Franco, va demander la restitution. Et toutes les œuvres seront restituées. Voilà, seront restituées. Ah ben, c'est un gouvernement officiel, légal, reconnu par plein de pays. Bien donc, voilà, c'est toute légitimité, bien sûr, pour que ces œuvres retrouvent leur lieu initial. Alors, donc, Jacques Jaujard, lui, c'est lui donc, qui est responsable, qui est à la tête de tout ce qui est monument historique en France. Lui va s'occuper donc de sauver, de sauvegarder,
mettre à l'abri,
on ne parle pas de sauver déjà parce que la guerre n'a même pas éclaté, mais il prévoit d'éloigner de Paris plus de 4000 œuvres majeures, ce qui n'est vraiment pas rien, dont des tableaux gigantesques, le radeau de la Méduse notamment, il y a vraiment très petites œuvres, ou des œuvres, on l'a dit, est vraiment très très grandes. Donc, il va choisir pour cela un château qui est bien national, très éloigné de la capitale, presque au centre de la France, qui est le château de Chambord.
Ah bah oui.
C'est très grand.
Oui.
Il y a largement la place d'y mettre les 4000 les 4000 œuvres. Donc voilà, Chambord.
C'est peut-être un peu humide. Mais enfin, ils ont dû prévoir le coup.
Oui, peut-être un peu humide, mais bon, les œuvres justement vont être dispatchées un peu ailleurs, on va en parler. Ah. C'est justement voilà pour on va rejoindre Mémoire Aveyronnaise, on va rejoindre l'Aveyron. Donc le 28 août 1939, tu vois, c'est vraiment à peine 6 jours avant la déclaration de guerre, ces 4000 œuvres quittent le Louvre.
Ça a dû être un sacré déménagement. Moi, je suis dans le déménagement de la radio, mais à côté, le déménagement du Louvre, ça a dû être un sacré bazar.
Énorme. On parle de à peu près 2400 caisses, 37 convois, avec chaque fois entre 5 et 8 camions. Une voiture en sécurité devant, une voiture en sécurité derrière. Parfois, quand il y a des œuvres, notamment des tableaux, des œuvres qui brûlent, un camion-citerne qui suivait ce convoi, et des convois comme ça qui vont avoir lieu entre Paris et Chambord, donc de la fin du mois d'août 1939, on l'a vu le 28 août, jusqu'au mois de décembre. Donc c'est énorme. Des camions de l'Académie française sont prêtés. Pourquoi Académie française ? Parce que ils ont des camions très très grands et très très hauts, surtout pour transporter les décors de théâtre.
Ah ouais.
Voilà. Donc c'est comme tu dis, c'est un déménagement vraiment spectaculaire. Surtout qu'il faut imaginer les routes de l'époque
les camions d'époque aussi.
C'est ça. La largeur, il y avait des arbres un peu partout, donc la hauteur, il y aura quelques problèmes justement pour les grandes œuvres. Et puis l'état, il devait y avoir des nids de poules à peu près partout. Ça va être, à mon avis, ça a dû être vraiment rocambolesque. Comme tu dis, le château de Chambord est quand même un peu humide, donc ces œuvres vont être aussi dispersées.
Ouais. La Joconde est dans le lot.
La Joconde est dans le lot. Alors, d'accord. La Joconde, elle a son. C'est la Joconde.
Ah oui, elle a un camion pour elle toute seule.
Peut-être pas un camion pour elle toute seule, mais en tout cas, elle a une caisse pour elle toute seule. Avec un codage très spécial. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas réussi à le trouver. C'est des codes. Elle est codée NLP et elle porte le numéro 0. Donc, même pas le numéro 1. C'est vraiment l'œuvre à sauver en priorité. Plus 3 points rouges. Il y a des codes aussi de couleurs. Il y a des codes lettres, il y a des codes chiffres et des codes couleurs avec des pastilles. Les plus importants sont en rouge. 1, 2 ou 3 pastilles. Elle a carrément 3 pastilles. Donc, si tout va mal et qu'il faut sauver une seule œuvre, c'est celle-là. Voilà, tout à fait. On décide donc de dispatcher un petit peu ces œuvres. Ça touche, c'est maintenant qu'on va parler de l'Aveyron. Une partie de ces œuvres, à peu près, alors les œuvres, les chiffres varient suivant ce que j'ai pu lire, on va dire à peu près 3170 tableaux vont rejoindre l'Aveyron et vont rejoindre l'abbaye de Locdieu.
D'accord, mais pourquoi
dans la ville de Franchois.
Pourquoi ils ont choisi cette abbaye en Aveyron
Alors, j'ai enquêté, personne n'a su me dire.
Ah, et Jacques Jaujard, il n'a pas de la famille en Aveyron ?
Il n'a pas de la famille en Aveyron, peut-être que, tu sais, le Louvre, il y a un conservateur général, mais il y a plein de conservateurs, sous-conservateurs.
Oh là là, on en a rencontré plein.
Voilà, c'est un véritable
casse-tête. Les antiquités grecques, il y en a, les antiquités romaines, il y en a un autre, il y en a plein.
Donc peut-être que quelqu'un a des origines aveyronnaises, peut-être que quelqu'un allait passer ses vacances en Aveyron, en tout cas, cette abbaye du Locdieu.
Parce que l'abbaye de Locdieu, à l'époque, c'était une abbaye avec dedans des moines.
Non, 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 du tout.
Ah, d'accord.
Du tout. C'est depuis la Révolution française, en fait, ça a été vendu comme bien national.
Okay.
Et ça appartenait à une famille. Okay. D'ailleurs, ça appartient à la même famille depuis deux siècles.
D'accord. Et tiens, excuse-moi, Vincent, parce que bon, je connais pas encore à fond l'Aveyron. L'abbaye de Locdieu, elle est vers où ?
Alors, l'abbaye de Locdieu, elle est à quelques kilomètres de Villefranche de Rouergue.
D'accord.
Elle est vraiment aux confins du Rouergue, aux confins de l'Aveyron, en direction de Montauban.
Bon, bah là, tu parlais de route difficile pour le déménagement Paris-Chambord, mais alors le Chambord-Locdieu.
Ah oui, non, à l'époque, oui, ça devait être folklorique.
Ouais. Surtout si ça s'est fait l'hiver, là.
Non, pas l'hiver, non, pas l'hiver. Okay. L'ordre de réquisition de l'abbaye de Locdieu date de février 1940. Mmh. Mais les œuvres vont arriver, donc je l'ai dit, à peu près 3170 tableaux, vont arriver fin mai à l'abbaye de Locdieu.
Ouais, d'accord, au printemps.
Alors, ils vont rester que quelques mois, de fin mai jusqu'au début ou mi-octobre 1940.
Mmh. Et donc là, excuse-moi Vincent, donc là, ces œuvres, et notamment la Joconde, bon, ils sont restés dans des caisses, là, c'était pas le moment de les sortir, de les exposer pour les gens du coin.
Tu crois pas si bien dire. Alors, ces œuvres, déjà, je vais parler un petit peu du personnel, parce que c'est énorme, hein. 3170 œuvres, 280 personnes qui viennent à Locdieu, ouais. 80 qui logent dans l'abbaye, donc ordre de réquisition de l'État.
Ils n'ont jamais dû voir ça de leur vie à Locdieu, autant de monde.
C'est ça.
Ils sont dit, voilà.
La famille, ouais. Enfin j'espère que si, parce que Locdieu, il y a quand même des concerts, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, c'est ouvert à la visite. J'en parlerai justement à la fin. Ah, ouais. On peut visiter, et je vous encourage d'ailleurs à visiter. La famille, elle, donc comme le bâtiment est réquisitionné, la famille est priée de partir.
Ouais.
Partir pas très loin, en fait, la famille a toujours eu une demeure sur Villefranche de Rouergue.
D'accord.
Locdieu, on va le voir, c'est justement pour ça que les œuvres vont pas rester très longtemps. C'est pas chauffable du tout, c'est pas vivable
ah bah
l'hiver.
Ouais, les mecs, ils devaient le savoir là quand même. Non, alors donc il y avait personne qui avait de la famille en Aveyron, parce que si ça avait pas ça.
Oui, si ça. Non mais c'est. C'est ce que je disais, ils devaient venir l'été.
Ouais, voilà.
Ils devaient venir l'été pour les vacances.
T'as raison.
Même la famille donc à qui appartient le château, Monsieur de Montalivet, le propriétaire, qui m'a vraiment très gentiment accueilli et que je tiens à remercier à l'antenne.
C'est la même famille qui est propriétaire actuellement.
Depuis deux siècles.
Voilà.
Super. C'est vraiment extraordinaire. J'ai été vraiment très bien accueilli. Donc la famille, en fait, d'après ce qu'il m'a expliqué, vit l'hiver sur Villefranche de Rouergue et vient, voilà, maison de vacances, très jolie maison de vacances, ouais. L'été à l'abbaye de Locdieu. Alors, est-ce qu'ils les sortent, ces tableaux ? C'est ce que tu m'as demandé.
Bah, non, c'est pas sérieux. Ça peut faire plaisir, mais c'est pas sérieux.
Eh oui, mais faut bien se faire plaisir de temps en temps.
Ils ont sorti la Joconde.
C'est ça. Alors, déjà, les tableaux sont conservés dans l'église abbatiale, dans l'église abbatiale de l'abbaye de Locdieu. C'est très pratique parce que Monsieur de Montalivet m'a montré, il y a des colonnes sur les côtés un peu partout. Et en fait, entre chaque colonne, ça permettait de classer suivant les styles ou suivant les époques.
Ah ouais.
Donc, c'est pas mal. Mmh. Alors, l'activité de ces 280 personnes, c'est bien entendu recenser toutes ces œuvres. 3170, rien que le recensement, ça prend du temps. Mmh. Ouvrir régulièrement les caisses pour contrôler l'état. C'est des peintures, donc il faut pas de choc thermique, il faut pas d'humidité. Si ça commence à se craqueler, alors là, c'est relativement inquiétant. Et la Joconde, je précise, donc l'œuvre à sauver absolument, elle n'était pas conservée dans l'église abbatiale, mais était conservée dans une des chambres
d'un des
responsables, d'un des conservateurs. Une anecdote aussi, les gens, ces personnes qui ont accompagné, ont passé beaucoup de temps à chasser les lapins pour pouvoir se nourrir. Tant et si bien que Monsieur de Montalivet me racontait pendant la guerre et après la guerre, ils avaient chassé tellement de lapins qu'ils ont mis beaucoup de temps à revoir la petite queue blanche d'un lapin courir dans la propriété pour pouvoir continuer à manger du lapin. C'était assez amusant.
Et alors, elle est restée... Tu nous as dit, bon, les conditions n'étaient pas satisfaisantes, mais alors la Joconde, elle est restée combien de temps à Locdieu finalement ?
Alors, ben je t'ai dit, de fin mai à peu près début ou mi-octobre.
Ah oui, donc quelques mois seulement.
Quelques mois, parce que, voilà, on s'est aperçu que, ils se sont aperçus que ben c'était pas du tout un lieu de stockage. Dès la mauvaise saison, c'est très froid, c'est très humide. Il y a une immense pièce d'eau à côté. Absolument, pour les tableaux, c'est absolument catastrophique. Donc, ils vont décider d'aller autre part.
Ok, alors avant d'aller autre part, donc ils l'ont sorti ou pas?
Eh bien voilà, j'en ai pas parlé. Je laisse un peu de suspense, voyons. Alors oui, pour remercier la municipalité de Villefranche de les avoir aidés, accueillis, etc. Ouais. Et aussi la famille, propriétaire de l'abbaye de Locdieu, ils ont sorti quelques œuvres pour faire une exposition dans le parc, le temps de quelques heures, à mon avis.
En 1940.
En 1940.
En pleine guerre, au moins ça fait penser à des choses plus agréables.
Tout à fait.
C'était un bon moment dans une période qui n'était pas terrible.
Tout à fait, tout à fait. Alors, une anecdote personnelle, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. J'ai un ami d'origine villefranchoise qui érudit d'histoire, qui faisait, étant jeune, des visites à Locdieu, hein, qui s'appelle Michel Palis, que je salue au passage, me racontait que donc il faisait, étant jeune, des visites à Locdieu, et que quand il racontait cet épisode de l'exposition, il disait aux visiteurs voilà l'arbre, justement, contre lequel a été appuyé la Joconde, et tout le monde prenait l'arbre en photo, et ce qui l'amusait fortement. Donc voilà, petite anecdote. Je te salue, Michel, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment amusant. Alors donc, on s'en va, et tant qu'on est dans des routes très bien praticables, puisqu'on l'a vu, tout ce cortège va partir jusqu'à Montauban.
D'accord, tout le cortège, il déménage tout.
Il déménage tout. Ah oui, mais faut très humide, faut rien laisser. Faut rien laisser.
Mais alors donc ça veut dire qu'à Montauban ils ont des établissements, des bâtisses qui sont dans de meilleures situations que les nôtres.
Alors
tu es en train de nous annoncer ça, Vincent.
Peut-être moins humide. Mais on est en ville aussi à Montauban.
Ouais.
On est quand même en pleine campagne, à l'abbaye du Locdieu. Il y a rien autour. Et d'ailleurs, si vous allez visiter, je vous encourage à y aller. Il y a un parc romantique qui a été romantique dans le sens romantisme, mais pas.
Chacun fait ce qu'il veut.
Ouais. De 80 hectares.
Ah oula.
Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Mmh. Et en fait, à Montauban, là aussi, je vous encourage à y aller. Bon, c'est plus en Aveyron, c'est dommage, mais nul n'est parfait.
Voilà.
Y a le musée Ingres.
Oui.
Ingres est originaire de Montauban. Il est né là-bas. Il est mort à Paris en 1867, mais il est né à Montauban en 1780.
D'accord.
Il y a un très beau musée.
Oui.
Musée Ingres.
Qui existe toujours.
Voilà, les gens peuvent aller visiter. En bordure de, je sais plus qu'est-ce qui passe là-bas, si c'est l'Aveyron ou le Tarn.
Je dirais l'Aveyron, mais j'ai un doute.
J'ai un doute aussi, voilà. Je suis désolé, j'aurais dû mieux préparer. Et donc, les œuvres vont être entreposées dans le musée pendant 2 ans.
Fin 40 à fin 42.
Alors donc, on est en octobre 1940.
Ouais.
Et jusqu'en novembre 1942.
D'accord. Bien, elle aura voyagé. Hein. Enfin, elles auront voyagé toutes ces œuvres. 2 ans, c'est pas énorme.
Et c'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé
pour que ça redéménage?
Novembre 42, ça te dit rien?
Ah, on se fait.
11 novembre 1942.
La France libre est occupée. Non.
C'est ça. Pas la France libre, la zone libre.
La zone libre, pardon.
On n'est pas encore. Non. La France libre, elle est à Londres, je te le rappelle.
Ouais.
Donc, la zone libre est occupée par l'armée allemande, des suites donc du débarquement des Alliés en Afrique du Nord.
Ouais.
Là aussi, on a un petit peu peur parce que le musée Ingres, en plus, est au bord d'un pont, vraiment en bordure de rivière. Hein. Donc, les ponts, on en a un petit peu peur.
Ça saute.
C'est ce qui saute en premier, comme la 7e compagnie. Si je connaissais le con qui a fait sauter ce pont. Donc voilà.
Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge.
C'est ça, voilà. C'est ce qui est logique. Oui. Donc c'est pareil, on veut éloigner ces œuvres de ce pont et des Allemands qui arrivent. Mmh. En plus, il y a eu quelques mois auparavant, je crois, une très grosse inondation dans la ville qui a traversé le musée. Donc, quelques œuvres, je crois, ont été tout petit peu abîmées. Ouais. Donc, voilà, on décide encore une fois.
Mais alors là, on va où? Parce qu'il ne reste plus de France libre. Ou alors si.
De zone libre.
De zone libre, merde. De zone libre. Décidément. Donc, on l'envoie quand? En Nouvelle-Calédonie, la Joconde?
Non, toujours en zone donc, plus libre, mais qui vient d'être occupée. Ouais. Alors, déjà, on a fait 67 km, j'ai calculé, attention, entre l'abbaye de Locdieu à Montauban. Là, on va en faire un tout petit peu plus. On va aller dans le Lot. On reste toujours, tu vois, dans le même périmètre. On fait 127 km et on va au château de Montal, dans le Quercy.
Elle va retrouver un château.
Voilà. Le château de Montal qui est ouvert à la visite, qui est extraordinaire. C'est un bijou renaissance qui ressemble beaucoup au château de Bournazel chez nous en Aveyron, avec des médaillons. Enfin, vraiment un château extraordinaire qui a un lien aussi avec l'Aveyron, malgré qu'il soit dans le Lot. Ouais. Il est à côté de Saint-Céré et c'est un château qui a appartenu à un industriel pétrolier bien connu en Aveyron, qui était marié avec une Aveyronnaise, c'est Maurice Fenaille.
Eh oui,
voilà. Maurice Fenaille, qui avait beaucoup de propriétés. Alors, je sais pas à l'époque si on disait millionnaire ou milliardaire, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mmh. Donc, il a réussi dans l'industrie pétrolière, collectionneur et mécène. On le connaît en Aveyron, surtout à Rodez, parce que il était le propriétaire de l'hôtel
qui est devenu
Musée Fenaille. Voilà. Il en a fait don à la Société des Lettres. Pour le remercier, la Société des Lettres a donné son nom à ce musée, le Musée Fenaille. Également, le château de Montrosier lui appartenait puisque son épouse était d'origine noble et elle est née dans ce château, dans le château de Montrosier. Et puis plein d'autres propriétés. Alors, ce château de Montal lui appartenait. Il en a fait don de son vivant à l'État en 1913, par contre, tout en gardant la jouissance pour lui et pour ses enfants. Voilà. Alors, la Joconde va être gardée, va être protégée dans ce château de Montal.
Et donc là, les Allemands, à l'époque, ils savaient que la Joconde, elle était là ou pas?
Non.
Ok.
Non, parce que...
Sinon, il a ramené chez eux, les Allemands. Il y avait des amateurs.
On a un grand amateur qui s'appelait, je le rappelle, Hermann Göring. Mmh. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous conter, là, reprend un petit peu... Il y a eu un film américain, moi, que je trouve très sympa, qui est sorti, qui s'appelle Monuments Men.
Je l'ai vu.
Tu l'as vu?
Il y a quelques années.
Ouais.
Avec George Clooney.
Avec George Clooney, d'ailleurs. C'est un film de George Clooney, avec George Clooney. Il est sorti en 2014.
Ah, je l'ai vu, c'est des militaires américains, je sais plus quoi, ou anglais peut-être.
Alors, à la base, c'est pas des militaires. C'est des spécialistes d'art ou des conservateurs qui demandent au président américain de faire une formation spéciale militaire, du coup, parce qu'il faut être dans l'armée pour pouvoir aller au front, pour permettre de sauver toutes les œuvres qui ont été volées à des pays par...
Ou à des personnes, aux juifs, qui se sont fait spoilier pas mal.
Alors, c'est le terme spolier, toutes ces œuvres donc, qui ont fini en Allemagne, là, on y est en plein. Ouais, une histoire de sauvetage. C'est vraiment
intéressant. Donc, les Allemands n'ont jamais été mis au courant que la Joconde était... quasiment sous leurs mains, dans le Lot.
Oui.
Hein. De 42 à combien elle est restée là-bas?
À 45.
Ah, donc là, elle était bien.
Jusqu'au bout.
Là, c'était bien chauffé, c'était pas au bord de la rivière, il n'y avait pas de pont.
C'est ça.
Nickel.
C'est d'accord. ça. A priori, elle apprécie mieux le climat lotois.
Ouais, écoute.
Et alors, une petite anecdote. A priori, il va falloir une année entière, après l'été 45, le temps que toutes les œuvres puissent rejoindre leurs emplacements, leurs murs, leurs vitrines ou leur socle dans le musée du Louvre. Une année entière.
Ouais, mais enfin, en 45, on avait d'autres problèmes en même temps.
Oui, mais
c'était important.
C'était important, mais il y avait quand même beaucoup de personnes, beaucoup de personnel qui étaient dédiés vraiment à ça. Hein. Donc autant dire plus de 4000 œuvres, autant dire que c'était vraiment c'était du boulot. C'était
donc la Joconde a retrouvé, et puis les autres œuvres venues du Louvre ont retrouvé le musée parisien en 46, quoi.
Le temps que ça s'ouvre, le temps que tout soit rangé, oui, à peu près, je pense. Et je voudrais quand même vous parler un tout petit peu. Bon, on a parlé plus de la Joconde, on a évoqué un petit peu l'abbaye du Locdieu. Je voudrais vous en parler un petit peu plus quand même parce que c'est un bâtiment, un monument vraiment très très beau.
D'accord, en soi, ça vaut le déplacement.
En soi,
même s'il n'y a plus la Joconde, ça vaut quand même le coup d'y aller.
Ça vaut vraiment le coup d'y aller.
T'es sûr, Vincent?
Ah, oui, oui, sûr. Je m'engage. Bon, je ne vais, vais pas dire rembourser si c'est satisfait ou remboursé. Mais...
Des abbayes, j'en ai visité quelques-unes. Il y en a quelques-unes où il y a trois, il reste trois briques. Hein.
Oui, oui, oui. Non, non, elle est vraiment très belle.
Bon,
d'ailleurs, si vous écoutez le podcast, écoutez ou réécoutez, vous pouvez écouter à volonté. Chaque fois, je mets une petite image justement pour
illustrer.
Mes propos. Et là, vous pourrez voir une carte postale du tout début du XXe siècle, colorisée. Alors, elle date du début du XXe siècle, mais rien n'a changé. C'est vraiment très, très beau. Et en plus, il y a un côté impressionnant parce qu'elle a été brûlée pendant la guerre de Cent Ans. Et elle a été, cette abbaye, reconstruite au XVe siècle et fortifiée.
Voilà. Alors attends, si elle a été brûlée dans la guerre de 100 ans, c'est qu'elle est quand même vachement vieille.
Elle est très vieille.
Mais elle date de quand?
Elle date du 12e siècle. Alors le lieu est assez amusant parce que ça m'étonne d'ailleurs que tu m'aies pas posé la question. Mm-hmm. Tiens, Locdieu.
Ah si, je voulais.
Ah tu vois, je le savais.
C'est quoi ce nom?
Tu vois, je deviens professionnel. J'anticipe tes questions. Alors c'est un nom qui a été changé.
Ah.
Eh oui, à mieux. Des fois, on essaye de faire mieux. Mm-hmm. Là, c'est le cas. Depuis la nuit des temps, en fait, le lieu s'appelait Locus Diaboli. Locus Diaboli. Qu'est-ce que
le
ça
Le cul du diable.
Non, le lieu.
J'ai tenté.
Le lieu du diable.
Ah, bah, j'étais pas loin quand
voilà.
même.
Voilà. En fait, il y avait un dolmen à cet endroit-là, comme il y en a beaucoup en Aveyron.
Oui, en Aveyron.
Je rappelle d'ailleurs, on parle toujours de la Bretagne.
L'Aveyron est le premier département français en nombre de dolmens.
Voilà. En Bretagne, ils sont plus grands, ils sont peut-être plus jolis, mais c'est chez nous qu'il y en a le plus. Voilà, tout à fait. Alors, tu sais, à l'époque, c'était un peu diabolique, tout ça. On imaginait des réunions de sorcières, le diable qui venait la nuit. Pour ça, le lieu du diable, le locus diaboli. Les moines ont voulu s'implanter à cet endroit-là, justement, pour chasser le diable et pour faire venir Dieu. Donc, locus diaboli, c'est devenu locus dei, le lieu de Dieu.
Oui.
Locus dei, qui est devenu loc Dieu.
Voilà, tout simplement.
Le nom est originaire de là.
D'accord.
Alors, les terres sont données en 1124 à des cisterciens de l'abbaye de Pontigny, dans Lyon, qui ont voulu fonder une abbaye, ça se faisait beaucoup à l'époque, une abbaye fille.
Oh oui.
Voilà. Mmh. Toutes ces abbayes et ces cisterciennes donc, dépendaient de l'abbaye de Citeaux. Donc en 1124, les terres leur sont données par le seigneur local, Ardouin de Parisot.
Et si vous cherchez des idées de prénoms, là il y a Ardouin.
Ardouin, voilà. Alors j'en ai un autre qui est bien aussi, qui est pas mal, qui pète.
Mmh.
Ils ont été autorisés, parce que c'est l'Église,
ils ont été autorisés
par l'évêque de Rodez à s'implanter, à la même période, par Adhémar III.
Adhémar, voilà. C'est pas mal, mais je connaissais un joueur de foot.
Adhémar ?
Ouais.
Ah.
Non, ben bon, écoute, on a les références qu'on peut.
C'est ça.
Okay.
Alors, l'église est construite, donc je le disais, donc 12e siècle, l'église est construite en 1159. Et je l'ai dit, donc ça a beaucoup souffert pendant la guerre de Cent Ans. Le lieu, elle se trouve à la confluence du Rouergue, proche, on l'a dit, du Lot, actuellement du Tarn et Garonne. Alors, région frontalière, toujours disputée entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre, les Anglais vont brûler.
Ah bah oui.
Voilà. En 1409.
D'accord.
Ils vont incendier. Les bâtiments conventuels ont beaucoup plus souffert que l'église. L'église, c'est toujours l'église du XIIe siècle. Et les bâtiments conventuels vont être reconstruits, donc je l'ai dit, au XVe siècle, avec un joli cloître et vraiment fortifié. Quand vous y allez, c'est très joli. Ça, on a vraiment l'impression, ça fait château.
Voyager dans le
sable. Ça fait château fort. C'est pour ça que c'est vraiment surprenant.
Et là, donc,
alors qu'on est
dans
une abbaye.
Tu nous disais, c'est un lieu qui, toi, tu as pu visiter, mais c'est peut-être un privilège que tu as eu. Tous les privilèges ne sont peut-être pas abolis.
Tout à fait.
Moi, je peux y aller ou
Bien sûr.
C'est ouvert.
Tout le monde peut y aller. C'est ouvert au public. Donc, c'est ouvert à la visite du 1er juillet au 10 septembre. Ou sinon, si vous êtes un groupe, bon, pour une ou deux personnes, ça va être compliqué. Mais c'est aussi ouvert sur rendez-vous. Il suffit de téléphoner. Le parc est ouvert aussi. Si vous voulez visiter que le parc, vous paierez, je crois que c'est 2 euros pour pouvoir justement voir l'extérieur de l'abbaye et le parc qui est vraiment très très beau.
Tiens, Vincent.
L'été, il y a des concerts aussi.
D'accord.
Concert de musique religieuse.
Ah bah écoute, on, dans l'ambiance. Donc.
C'est dans l'ambiance.
Juste un truc, parce que donc j'ai envie d'y aller, moi. Tu nous as dit que c'est du côté de Villefranche-de-Rouergue, mais c'est bien indiqué niveau panneau.
Ah, c'est très très bien indiqué. Ouais. C'est un des sites, ça fait partie des sites majeurs de l'Aveyron. Hein, donc c'est très bien indiqué, ne serait-ce que par les services départementaux. Tapez sur Internet.
Parce que souvent, les abbayes, elles étaient justement situées dans des endroits pas possibles.
C'est quand même excentré. C'est pas en bordure de route, hein. mais c'est pas très loin. C'est vraiment, c'est très facile d'accès. Je sais pas, c'est peut-être à 10 minutes de Villefranche, quoi.
D'accord. Ok.
Voilà. Et puis sur Internet, vous aurez vraiment toutes les photos. Vous verrez, c'est splendide. Tous les renseignements historiques. Il y a des sites qui sont vraiment très bien faits.
Bon. Et puis en attendant d'aller sur Internet. Pour l'image qui illustre le podcast de cette émission Mémoire Aveyronnaise numéro 7, tu nous as dit que ce serait une carte postale colorisée.
Voilà, du début du XXe siècle.
De l'abbaye de Locdieu. Merci beaucoup, Vincent, pour ce périple de la Joconde et d'œuvres françaises majeures pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc la Joconde qui est restée quelques mois en Aveyron. Mais,
c'est ça.
On n'a pas oublié.
On n'a pas oublié.
Ah. Très bien. Dans 15 jours, on ne sera pas loin de Noël.
Oui,
mais je dis ça comme ça en passant. Je ne demande pas de me faire un cadeau.
Oh, mais c'est moi qui allais te demander.
Non. Mais par contre, est-ce que tu sais de quoi nous allons parler tous les deux ensemble ?
Alors, je suis pas très original. Je suis désolé, mais justement, on va parler
le
de Noël.
Le Père Noël est aveyronnais.
On va parler de Noël.
Non.
Non, mais il vient en Aveyron.
Ah oui, il vient.
Oui. Moi, je l'ai pas vu personnellement, mais j'ai eu plein de cadeaux étant jeune, et oui, il vient en Aveyron.
Il vient toujours en Aveyron. Donc Noël.
Je vais parler de Noël pour les prisonniers de guerre français. J'ai trouvé une très belle prière écrite sur le thème de Noël,
ouais.
Assez amusante, un peu mélodramatique, vous verrez, j'en dis pas plus, je vous ferai la surprise.
Eh ben, avec plaisir, mais alors juste, j'insiste un tout petit peu,
oui.
De quelle guerre ? Parce que les prisonniers de guerre, on en a eu à toutes les guerres, nous les Français.
C'est vrai, t'as raison de préciser. Entre 1939 et 1945, donc la deuxième.
Rendez-vous dans 15 jours, Vincent.
À dans 15 jours, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.